6h sur Europe 1.
Il est sur Paris dans un EHPAD privé, il paye très très cher et il n'a pas encore pu sortir sur le parvis du Champ de Mars où il allait régulièrement auparavant. Et il est vacciné.
Maintien de restrictions de sortie, dépistage sans consentement, les saisines se multiplient pour dénoncer de graves atteintes aux libertés des résidents d'EHPAD depuis la crise sanitaire. Des atteintes dénoncées par la défenseure des droits. Une première étape vers le pass sanitaire. Désormais, les personnes vaccinées se voient remettre une attestation de vaccination certifiée, un QR code qui permettra d'éviter les fraudes. Renaud Muselier garde le soutien des Républicains pour les régionales. Le président sortant de la région Sud a dû assurer qu'il n'aurait pas de parlementaire en marche ou de membre du gouvernement sur sa liste. Et puis la France commémore les 200 ans de la mort de Napoléon, un personnage controversé qui fait l'objet de nombreux livres à découvrir en fin de journal.
À suivre la page des sports et puis mon invité inattendu qui a désormais sa définition dans le dico. Quel honneur à 28 ans d'entrer dans le Petit Larousse et vous verrez que c'est bien mérité, je l'appelle dans un quart d'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La défenseure des droits tire la sonnette d'alarme. Claire Hédon a reçu plus de 200 saisines qui dénoncent un manque de liberté dans les maisons de retraite. Les droits fondamentaux des personnes âgées sont bafoués dans certains EHPAD depuis la crise sanitaire. Virginie Salmen, il leur est refusé jusqu'au simple droit de sortir ou de voir leurs proches.
Oui, ce sont des situations déchirantes que Sabrina Deliri recense depuis un an pour son groupe de pression, le Cercle des proches aidants en EHPAD. Elle récolte des histoires et des prénoms.
Le papa d'Olivia n'a pas quitté son EHPAD depuis plus d'un an. Il est sur Paris, dans un EHPAD privé. Il paye très très cher et il n'a pas encore pu sortir sur le parvis du Champ de Mars où il allait régulièrement auparavant. Et il est vacciné. Alors que dans le protocole, il y a marqué qu'un résident vacciné peut sortir quand il le souhaite. Dans beaucoup d'EHPAD, ce n'est pas le cas.
Comment est-ce que les directeurs de ces EHPAD l'expliquent ?
Mais ils ne l'expliquent pas. Ils l'imposent.
Pour Pascal Chanvert, représentant des directeurs d'EHPAD de l'ADEPA, il y a un décalage énorme entre les annonces d'assouplissement du gouvernement et ce qui est écrit dans le dernier protocole sanitaire, très ambigu.
Par exemple, il est indiqué, tant que les salariés ne sont pas massivement vaccinés, aucun assouplissement ne pourra être mis en place. Or, on sait qu'aujourd'hui, même si la vaccination des salariés progresse, ils ne sont pas aujourd'hui massivement vaccinés. Donc, cette simple petite phrase peut faire que, tout à fait légalement, des directeurs ne changent rien à la situation antérieure.
Des sénateurs et des députés voudraient inscrire dans la loi un droit opposable aux visites en EHPAD.
Virginie Salmen pour Europe 1.
Près de 16,5 millions de Français ont désormais reçu une première injection de vaccin Pfizer.
Et depuis le début de la semaine, c'est parti pour le certificat de vaccination. Toutes les personnes vaccinées contre le Covid reçoivent une attestation. Anne Le Gall, c'est un premier pas vers le pass sanitaire.
Oui, depuis lundi, la vaccination donne droit à un QR code imprimé sur une feuille de papier, code que l'on peut ensuite scanner avec son téléphone pour le stocker dans l'application Tous Anti-Covid. Pour les vaccinés pour qui l'injection est plus ancienne, ce certificat pourra être récupéré sur Internet à partir de la deuxième quinzaine de mai. Alors pour l'instant, ce pass n'est pas encore très utile, mais à partir du 9 juin, il pourra être exigé pour participer à des événements culturels, sportifs ou des salons de plus de 5000 personnes. Par ailleurs, c'est aussi une première étape dans la mise en place du certificat vert numérique voté par le Parlement européen fin avril. Il ne sera pas obligatoire pour partir en vacances cet été, mais il devrait quand même faciliter les déplacements intra-européens.
Et pendant ce temps, aux États-Unis, Joe Biden a fixé un nouvel objectif de vaccination. Il souhaite que 70% des adultes aient reçu au moins une injection d'ici la fête nationale du 4 juillet. Et pour ça, il compte aller chercher les Américains qui vivent dans les zones les plus reculées.
À partir de la semaine prochaine, nous allons expédier de nouvelles doses de vaccins aux cliniques rurales. Ainsi, les Américains qui ne vivent pas à proximité des 75 000 sites de vaccination auront de nouvelles options qui seront peut-être plus proches que ce qu'ils pensaient. Nous savons que les taux de vaccination sont plus faibles dans les zones rurales et c'est pourquoi nous allons acheminer les vaccins plus près que jamais des résidents ruraux.
Le président américain Joe Biden.
On revient en France avec ce qui ressemble à la fin de la crise à droite. Renaud Muselier a finalement obtenu le soutien des Républicains pour les régionales en PACA.
Un soutien obtenu à une condition, qu'il n'y ait pas de parlementaire de La République En Marche ou de membre du gouvernement sur sa liste. Et pourtant, Gabriel Attal, le porte-parole de l'exécutif, a annoncé le contraire hier sur LCI.
Est-ce qu'à l'arrivée, oui ou non, il y aura des représentants de La République En Marche sur la liste
Bien sûr.
De Renaud Muselier?
Mais évidemment, c'est le sens de ce rapprochement, de cette alliance qu'il y a avec Renaud Muselier, mais qui sera très large. Il l'a dit lui-même, il a une majorité régionale sortante, qui est la colonne vertébrale, et puis vous avez d'autres formations politiques et d'autres représentants politiques qui viennent s'y agréger au service de l'intérêt général. Moi, je suis assez, je dois le dire, surpris, voire sidéré par une forme d'inversion des valeurs que j'observe depuis quelques jours.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Après une année 2020 marquée par une baisse record des recrutements, crise sanitaire oblige, 2021 marque un léger rebond. Olivier Samin, c'est en tout cas ce que laisse entrevoir l'enquête annuelle publiée hier par Pôle emploi. Elle concerne les besoins en main-d'œuvre dans toute la France.
Oui, 2 723 000 projets d'embauche cette année, soit 1,1% de plus qu'en 2019, qui était la dernière année, entre guillemets, normale, pouvant donner lieu de ce fait à comparaison. Voilà ce qui ressort de l'étude menée par Pôle emploi. Les entreprises ont l'intention de recruter, surtout les petites. 2 projets d'embauche sur 3 viennent des PME de moins de 50 salariés. Avec une forte hausse dans la construction, les métiers de la santé, aides-soignants infirmiers, et les métiers de l'aide à domicile. Et à l'opposé, une baisse, qui ne surprendra personne, crise sanitaire oblige, dans l'hôtellerie-restauration, les métiers artistiques et l'animation socioculturelle. Est-ce là aussi un effet de la crise? Les entreprises interrogées par Pôle emploi considèrent qu'elles auront globalement un peu moins de difficultés qu'il y a 2 ans pour mener à bien leur projet de recrutement d'ici à la fin de l'année. Même si, dans certaines spécialités, les employeurs continuent de s'arracher les cheveux en tête des recrutements perçus comme les plus difficiles, charpentiers, couvreurs, aide à domicile, aide ménagère ou encore carrossier, mécanicien et électronicien automobile.
Olivier Samin pour Europe 1.
Donald Trump va-t-il pouvoir faire son retour sur Facebook? L'ancien président américain avait été banni du réseau social au mois de janvier dernier après des messages qu'il avait postés ayant incité ses partisans à attaquer le Capitole, on s'en souvient.
Et on saura aujourd'hui à 15h si son compte est finalement réactivé. Clément Le Saffre, c'est le conseil de surveillance de Facebook qui doit trancher.
Oui, c'est ça, un organe financé par Facebook, mais indépendant dans son fonctionnement. Le conseil de surveillance a été créé l'an dernier pour répondre aux critiques récurrentes sur la politique de modération de Facebook. Sorte de cour suprême du réseau social, il a le pouvoir de trancher les cas les plus sensibles. Le conseil est composé de 20 membres, des personnalités issues de la société civile, de 16 nationalités et sans lien avec Facebook. La plus connue, c'est Helle Thorning-Schmidt, ancienne première ministre du Danemark. À ses côtés, on trouve des avocats, des professeurs de droit constitutionnels, des spécialistes d'Internet et même un prix Nobel de la paix. Le cas Trump est le premier gros dossier de ce conseil de surveillance depuis son entrée en fonction en janvier. Il a rendu 8 décisions sur des publications supprimées par Facebook et 6 fois ses membres ont déjugé le réseau social. Aujourd'hui, il se prononce pour la première fois sur un compte suspendu et Facebook sera obligé de suivre la décision du conseil.
Et pour rappel, Donald Trump a été banni à vie, cette fois de Twitter.
Emmanuel Macron va commémorer aujourd'hui le 200e anniversaire de la mort de Napoléon.
Et dans son discours, le président compte regarder en face l'héritage de l'empereur en gardant le meilleur sans occulter le pire. Napoléon Bonaparte, un personnage qui fascine, qui divise, une avalanche de nouveaux livres, déferle d'ailleurs à l'occasion du bicentenaire. D'autres sont incontournables depuis longtemps. On fait le tri avec vous, Nicolas Caro.
On estime à plus de 70 000 le nombre de livres écrits sur le sujet, mais ils ne se valent pas tous, bien sûr. Parmi les incontournables, l'empereur des livres consacrés à Napoléon s'intitule « Le mémorial de Sainte-Hélène » d'Emmanuel de Lascaz. Ce sont les mémoires, tout simplement, de Napoléon Bonaparte, des souvenirs et des considérations de l'empereur recueillis, compilés et mis en forme par Lascaz. C'est la référence avec ce que le livre compte de subjectivité, évidemment. On peut lire aussi « Chronique de Sainte-Hélène, la petite histoire de l'île chamboulée depuis l'arrivée de l'exilé prestigieux. L'auteur Michel Danquen-Martineau est consul honoraire, gardien de Longwood, la maison de Napoléon. Si vous voulez des images, de nombreuses bandes dessinées racontent l'épopée et des beaux livres aussi, notamment Napoléon, l'esprit des lieux chez Michel Lafon. C'est une biographie visuelle. 2 photographes ont parcouru la planète sur les traces de Bonaparte. Les textes sont de Jean-Christophe Buisson. Et puis, vous pouvez piocher en toute confiance dans les livres de 3 grands historiens spécialistes, Jean Tullard, Thierry Lenz ou David Chantrane.
Nicolas Caro pour Europe 1, ça fait beaucoup de lecture.
Voilà, ça fait de la lecture, des livres et un podcast sur Europe1.fr. Napoléon, cet inconnu, podcast réalisé par Laure d'Autriche que vous pouvez découvrir. Et Laure d'Autriche sera avec nous tout à l'heure à 6h40. On en écoutera quelques extraits. C'était le journal d'Émilie Dez, il est 6h10.